Le printemps continue de s'épanouir sur l'antenne de Radion. Bonsoir à toutes et à tous. La semaine passée, nous avions déjà à notre manière marqué cette manifestation nationale du printemps des poètes qui a commencé à bourgeonner le 9 mars dernier et qui va se terminer dans quelques jours, très précisément le 24 mars prochain. Ce soir, c'est avec plaisir que nous allons bien évidemment parler de poésie en tant que genre, mais nous allons avec notre invité lui demander de nous offrir une perspective historique de l'évolution du genre poétique, encore qu'il ne sera pas possible, vu le temps qui nous est imparti, d'essayer de dresser l'histoire de la poésie. Je pense que je suis trop ambitieux dès le départ. En tout cas, nous essaierons peut-être de définir ou de délimiter ce qu'implique le langage poétique et ce qu'est la poésie. On désirait surtout ce soir vous rappeler que la poésie, c'est la rencontre avec un usage différent de la langue, c'est aussi une construction inédite d'un univers et, très important, la présence magique d'une parole. Alors, exploration de l'univers poétique avec notre guide et invité, Isabelle Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Isabelle, tu es poète, également professeure de lettres dans un collège de Haute-Marne. Je te présente rapidement pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Tu as été présidente de l'Association universitaire des artistes de l'écrit et de l'image fixe. Présidente donc d'une association qui a pour nom Némésis entre 2004 et 2008. Et tu as été également directrice de publication de la revue du même nom jusqu'en 2011. Tu as créé avec ton éditeur Perrin Grimard, fin 2011, l'association Centrifuge qui co-organisera en partenariat avec les éditions Vermifuge le festival biennal de littérature contemporaine de Dijon qui devrait se tenir en avril 2014 si tout va bien. Tu es l'auteur, bien sûr, de plusieurs recueils de poèmes. Le dernier, dont on parlera, je pense, assez longuement ce soir, a pour titre « Trois fois rien, désastre » et il est disponible aux éditions Vermifuge depuis l'année dernière. Isabelle, cette année, le printemps des poètes a retenu une thématique très intéressante, « Les voix du poème ». Rappelant ainsi l'originalité orale, la mission première du poème, qui, dès ses débuts, finalement, a pour but d'être déclamé, d'être récité, parfois même accompagné d'un instrument, on pense à la lyre ou la cithare. Donc c'est un retour aux sources, ce printemps des poètes, un rappel fondamental de l'oralité du texte poétique.
Alors, c'est une question très intéressante, liée au thème choisi cette année, qui lui-même peut être interprété de différentes façons, soit de la manière suivante, un retour aux sources, ou cette idée de dire les voix du poème, ça peut être interprété aussi d'une autre manière, dans le sens d'une pluralité d'interprétations possibles de la poésie. Alors, dans un premier temps, effectivement, on peut dire que la poésie vient de la musique, ça tout le monde le sait, même si on l'a oublié. Le poème était chanté, d'où sa forme versifiée qui, de siècle en siècle, même s'il n'est pas forcément chanté, conserve un rythme interne. Que ce soit de la Renaissance à l'époque classique ou de l'époque classique au romantisme, même à l'époque moderne, presque tous les poèmes pouvaient être mis en musique. Certains même, beaucoup l'ont été, ce qui est beaucoup moins le cas de nos jours. Hein. La poésie aujourd'hui, à mon sens, tend à se scinder entre oralité et poème visuel.
La poésie aujourd'hui, finalement, elle est relayée par la chanson.
Tout à fait. On pourrait dire qu'il y a d'un côté la chanson, ou le slam, ou le texte oral mis en scène, et des textes pour l'écrit. Visuel, mise en page d'une certaine manière pour que le lecteur soit vraiment lecteur et en tant que lecteur partenaire du sens.
Concernant l'oralité du poème, Isabelle, toi qui es enseignante, tu me disais combien tes collégiens étaient particulièrement enthousiastes lorsque tu entreprenais une séquence poésie. Les élèves sont toujours extrêmement heureux d'aborder le genre poétique. Ils sont également toujours très 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 heureux quand on parle de théâtre. Mais finalement, est-ce que pour les collégiens que tu as devant toi, est-ce que la poésie pour eux, c'est un exercice qui consiste à réciter? Est-ce qu'ils associent tout de suite la poésie avec l'idée de récitation et le plaisir peut-être d'avoir un auditoire et de partager un texte en le récitant? Ou alors est-ce que pour eux, la poésie, cela reste un texte comme un extrait de prose romanesque ou un extrait de nouvelle ou d'un texte documentaire ou explicatif?
Alors, je remarque déjà une chose, c'est que les choses ont évolué depuis quelques années. Et ça aussi, c'est intéressant. Quand j'ai commencé, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait pas 20 ans bien sûr, mais il y a quelques années, les premières années, quand on leur demandait pour eux ce qu'était la poésie, oh, récitation, tout de suite, oh là là, on va réciter les textes, on va passer devant tout le monde, on va avoir une note et je vais avoir très très peur. Ça faisait partie de leur vision des choses, même s'ils adorent eux-mêmes écrire, etc. De plus en plus, on s'éloigne un peu de cette peur de la récitation. La poésie n'est plus systématiquement apprise par cœur et récitée. Elle se fait, mais de façon plus détendue, disons. Et donc, ils ont une vision de la poésie finalement beaucoup plus large qu'avant. C'est dû sûrement à l'évolution à l'école primaire, mais aussi au collège. On leur laisse peut-être aussi plus la parole, on leur laisse aussi plus jouer avec le matériau poétique, et leur culture est pas extraordinaire, ça évidemment, ils sont à l'école pour en acquérir, mais la diversité du genre poétique est représentée à l'école, c'est-à-dire qu'on va aussi parler pas uniquement des fables de La Fontaine ou des sonnets, on va aussi parler de haïku, on va aussi parler de slam, on va aussi parler de poésie visuelle aussi, ou orale. On va faire en sorte qu'ils écrivent eux-mêmes, on va les écouter aussi, mettre en mots, mettre en voix, mettre en scène. Et ça, ça permet aussi à la jeunesse de s'intéresser davantage à la poésie et de se sentir soulagée par rapport à ça. Et évidemment, après, le plaisir arrive, ça c'est une évidence.
Concernant l'adjectif poétique. L'adjectif poétique, une situation par exemple peut être jugée poétique, une sensation peut être poétique, un sentiment, un visage, un paysage peut être poétique. Est-ce que justement le fait que tout puisse être, j'allais dire entre guillemets, poétisable ou poétisé, est-ce que cela ne donne pas à ce genre littéraire bien spécifique qu'est la poésie, est-ce que cela ne lui offre pas une puissance langagière face à laquelle les élèves sont particulièrement séduits? Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de montrer aux élèves la force de ce langage dans une, pas transcription, ou en tout cas peut-être redécouverte de ce qui nous entoure par le biais de la magie des mots?
Alors ça, je peux dire oui, ce genre poétique leur permet d'utiliser leurs sensations sans en avoir honte ni peur et d'essayer. Ils ont une véritable réflexion par rapport aux mots qu'ils vont utiliser ou non. Et on va se rendre compte que certains qui auront quelques difficultés à exprimer des idées vont avoir plus de facilité à s'exprimer par le genre poétique, même avec des contraintes. Et parfois même, les contraintes les aident à exprimer leurs sentiments et à trouver les mots. Quand je parle de contraintes, je parle de rimes, de strophes,
versification. Voilà. Ou fond poétique, fixe,
voilà,
genre sonnet
ou haïku, etc. Même si ce n'est pas nécessaire, eux-mêmes vont se contraindre et leur liberté va finalement s'exprimer à partir de la contrainte.
Alors, avant de marquer une première pause musicale, j'aimerais, Isabelle, que tu rappelles l'étymologie du mot poésie. Parce qu'en fait, cela vient d'un verbe grec, poiein, qui signifie faire, façonner, confectionner. Le poète est donc bien un artisan de la langue.
Oui, un artisan de la langue, un créateur, un inventeur de formes expressives. C'est aussi une idée qui est reprise au Moyen-Âge par rapport aux mots comme trouvère, troubadour. Le trouvère étant celui qui trouve. Donc, le poète est un éternel trouveur, un défricheur, un chercheur de langue, un chercheur de style, un chercheur de langage ou d'anti-langage dans les périodes historiques où le langage n'est plus supportable. Quand il remet en question ce langage, il est aussi un défricheur. Et donc, la définition de la poésie, si on veut encore la définir, la définition doit évoluer. La poésie, pour exister, pour continuer d'exister en tant que créatrice, elle doit évoluer. Si elle tourne en rond, si elle se répète, si elle n'évolue pas, elle meurt. Car comme disait Baudelaire dans Le Voyage, on doit aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
Et puis il y a aussi, alors c'est la grande modernité baudelairienne, on ne va pas non plus rentrer là-dedans, mais chez Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Il y a le fait aussi que Baudelaire et ses continuateurs vont explorer des objets poétiques, des situations qui n'auraient jamais été pensées comme poétiques au XVIe ou au XVIIe siècle. En tout cas, ce soir, la poésie est à l'honneur dans notre émission littéraire. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que notre rendez-vous entend s'inscrire dans les manifestations qui entourent le 15e printemps des poètes. Nous sommes ce soir en compagnie de notre invitée, elle-même poète et enseignante de lettres, Isabelle Monin. Et Isabelle vous propose d'écouter La rue qui est à nous. Le titre, c'est Les mots, en fait. Ce sont des poètes, en fait, qui parlent de poésie. Voici donc La rue qui est à nous. Bonne soirée sur Radio.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête
pour les charlatans.
Des jeux de mots
pour les artistes.
Des mots d'amour
pour les amants.
Des mots d'amour
pour les copieurs.
Des mots pour mots
pour les cafeteurs.
Des mots savants
pour les emmerdeurs.
Des mobilettes
pour les voleurs.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers. Et des mots jetés
pour les pas bien beaux.
Des mots perdus
pour les paumés.
Des mots en l'air
pour les oiseaux.
Des mots de passe
pour les méfiants.
Et des mots clés pour les prisonniers. Des mots pour rire
pour les enfants.
Des mots tabous
pour le taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des mots croisés
pour les retraités.
Et des petits mots
pour les béguins.
Des mots tendres
pour les ordonnés.
Des mots fléchés
pour les indiens. Des momies pour les pyramides. Des demi-mots pour les demi-portions. Des mots courants pour les rapides. Et le mot de la fin pour la chanson.
Radion, toutes vos chansons préférées.
La rue qui est à nous, les mots, une pause musicale offerte par notre invitée Isabelle Monin, poète et professeure de lettres. Ça rime avec quoi le printemps ? Eh bien, ça rime avec poète. C'est jusqu'au 24 mars prochain, le 15e printemps des poètes, une manifestation nationale qui a choisi comme thématique voix de poème pour rappeler la tradition orale qui originellement imposait la sollicitation de la sensibilité de l'auditeur. Isabelle Monin, question abrupte, volontiers provocatrice, à quoi sert un poème ?
à quoi sert un poème ? On peut dire à rien si la vie humaine se résume à manger, boire, dormir, se reproduire. Je peux volontiers utiliser une réponse provocatrice également en disant, en disant au couple par exemple, à quoi ça sert de faire l'amour si c'est pas pour se reproduire ? C'est un petit peu la même chose avec la poésie, avec les fleurs, avec la musique, avec toute forme d'art, c'est-à-dire à quoi ça sert tout ça ? Tout simplement à être humain et à faire la différence avec notre espèce animale et l'être humain développé, cultivé, civilisé tel que nous sommes. Ça l'aide à évoluer dans son humanité et à traduire tout ce qui fait notre humanité, le langage, les sentiments, etc. etc. La liste est interminable.
Alors on fait de la poésie surtout avec les mots. Tu dis combien l'identité humaine serait donc indissolublement liée à la pratique de l'écriture poétique. Ça, c'est évidemment une définition propre à Isabelle Monin. Pour toi, quand tu es en phase d'écriture poétique, parce que j'imagine que tu n'écris pas que de la poésie, tu écris peut-être aussi de la prose, des nouvelles, des récits.
Des nouvelles, des récits, un roman, mais on reste quand même dans un style poétique.
Mais une des questions t'a été posée tout à l'heure, le lien avec l'écriture poétique est-il d'une certaine manière une forme de réminiscence de l'enfance, de souvenirs d'école où justement nous avons tous un lien privilégié avec la poésie, où nous nous rappelons récitant la poésie à ses parents pour montrer que l'on a bien appris, ou alors effectivement l'écriture poétique devenant dans l'adolescence parfois sorte de journal intime, d'écriture de confidence, où l'on exprime ses premiers émois, ses premières souffrances, peut-être premières déceptions, enfin tout ce qu'est une existence humaine.
Alors oui, je rappelle la question qui a été posée tout à l'heure, qui est très intéressante, et qui, à laquelle il est difficile de répondre clairement ou de manière courte, disons. Il était question de est-ce que l'écriture de poésie n'est-elle pas toujours l'écriture de l'enfance ? Voilà. Et c'était quand même une question très intéressante parce que, effectivement, notre rapport à la poésie vient de l'enfance. Que ce soit notre culture personnelle, nos environnements familiaux ou l'école. Peu importe finalement, après ça reste personnel. Mais effectivement, ça vient de l'enfance, ça vient de l'école. Donc nos représentations ou notre culture est façonnée par les grands classiques, qu'il s'agisse de littérature enfantine ou des grands classiques autres. Sans problème. Ensuite, c'est vrai, la question est qu'est-ce qui fait qu'on continue à écrire ou pas ? Ça, c'est vraiment la grande question. Alors, ce que je disais, c'était aussi que à un moment, si on continue, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il y a quand même une démarche. C'est quand même une démarche. C'est pas juste exprimer ses sentiments personnels. Sinon, on reste dans la sphère intime. C'est surtout qu'est-ce qu'on veut faire ? Il faut, à mon sens, apporter quelque chose à la littérature, apporter quelque chose au langage, que ce soit montrer une influence, montrer une critique. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut une démarche quand on veut continuer l'écriture de poésie et surtout quand on veut publier la poésie. Parce que rien n'empêche sinon de l'écrire pour soi. En gros.
Je prends justement ta poésie et je m'appuie sur ton dernier recueil donc, qui a pour titre « Trois fois rien désastre » et qui est disponible aux éditions Vermifuge. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut aller voir et découvrir cette maison d'édition via internet sur le www.vermifed.com et effectivement il y a d'autres auteurs. Mais ton recueil « Trois fois rien désastre », il y a une préface qui dit la chose suivante, je la lis. Dans ses poèmes et ses récits, la jeune professeure de lettres, Isabelle Monin, allie images visuelles et sonores en tirant sur les coutures du langage jusqu'au point de rupture, ou plutôt d'éclatement des sens. Alors, tu parlais de la fonction de la poésie, puisque je t'avais lancé sur la question de l'utilité de l'écriture poétique et du poème en tant qu'objet fini. Pour toi, Isabelle, m'a-t-il semblé, quand je te lis, tu es vraiment dans l'expérimentation d'un langage dont tu que tu renouvelles. Enfin, quelque part, tu renouvelles aussi la langue. Alors, il y a ceux qui vont peut-être s'insurger du fait que tu utilises des éléments dans ta poésie qui n'ont strictement rien à voir avec le langage humain, mais qui sont des éléments plutôt appartenant à un langage informatique, à un langage de nouvelles technologies. Et c'est en cela, me semble-t-il, que ta poésie, elle est immensément novatrice, ambitieuse, peut-être choquante aussi par certains de ses aspects.
Alors oui, bon, déjà dans un premier temps, c'est un recueil qui ne réunit pas uniquement des textes expérimentaux ou novateurs. J'ai gardé quelques textes de forme a priori classique et, étrangement, ce sont ceux-là qui sont les plus facilement mis en voix. Donc voilà, c'est ce que je disais, il y a des textes pour l'oral et des textes pour l'écrit. Et moi-même, je fais une distinction. Ces textes-là, un petit peu plus expérimentaux, ça peut sembler novateur à ceux qui ne lisent que des classiques, mais en fait, il faut savoir que c'est pas si nouveau que ça et que l'expérimentation a déjà commencé depuis longtemps, finalement, depuis que le poète a compris qu'il fallait qu'il se renouvelle. On s'inspire des anciens.
Je pense, par exemple, la poésie d'Anna Apollinaire, les calligrammes, c'est une poésie graphique, visuelle, qui, effectivement, prend la forme de l'objet qui est évoqué. Toi, tu vas plus loin. Bien sûr, le texte est parfois déstructuré. La strophe me semble complètement déstructurée, presque démantelée, au profit d'un agencement qui est peut-être aussi libre que celui que l'on peut faire subir à un texte en jouant avec la barre d'espacement de son clavier d'ordinateur. Et j'allais dire, il y a une complicité que l'on a avec tes textes en se disant, ben, Isabelle nous fait signe que cette liberté de la mise en page du texte, elle nous est accessible aussi par le biais de manipulation de traitement de texte. Mais il y a aussi parfois un sens qui est difficile, j'allais dire presque parfois une poésie difficile, hermétique, au sens, je ne sais pas si c'est flatteur ou un peu sévère, au sens malarméen, une poésie hermétique un peu difficile dans la manière d'en capter le sens profond.
Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas forcément facile. La raison au départ, c'est que de mon point de vue, le lecteur construit lui-même le texte. Le lecteur est acteur de la poésie également. Et j'ai envie de lui laisser la place, lui laisser le souffle de le faire. Pour moi, c'est nécessaire.
En fait, ce que tu demandes, c'est une complicité lecteur. Ce que Montaigne appelait à son époque son suffisant lecteur, au sens de lecteur complice. Sauf que toi, tu es certaine d'avoir quand même des lecteurs qui ont tous accès aux nouvelles technologies, l'Internet dans sa manipulation, mais tu demandes quand même une complicité, et j'allais dire c'est presque une poésie de trentenaire.
Ah, peut-être, je ne me suis jamais posé la question, si c'était une poésie de trentenaire, c'est une très bonne question, peut-être, peut-être pas. Parce que bon, les générations plus âgées ont aussi accès ou peuvent comprendre ou le refuser parce que quand j'utilise ce langage informatique, ce n'est pas forcément pour lui rendre un hommage excessif, c'est aussi pour montrer une sorte de contamination par l'informatique du langage. Hein, quand je mais l'anglais ou français, le langage plus ou moins phonétique, les smileys, mimer l'adresse internet en construisant un vers sans espace, c'est pas forcément flatteur finalement pour le langage informatique qu'on utilise. C'est parfois ironique ou c'est aussi une critique. Jusqu'où le langage informatique peut-il contaminer en quelque sorte le langage poétique? Est-ce une nouvelle façon de construire ou est-ce qu'on est contaminé? Est-ce que l'humain est contaminé par la machine? C'est plus une question qu'une réponse, en fait.
Mais ce qui est absolument savoureux dans ta poésie, qui, je t'avoue, me surprend, c'est cette vision insolite que l'on a du texte dans une espèce de mélange, mais qui est étudiée et qui a pour but de provoquer une réaction. Alors bien sûr, il y a une expérimentation de la jeune femme poète qui veut montrer que le langage est malléable, il est modelable, et d'un autre côté, on a l'impression que l'informatique concurrence les muses.
Oui,
C'est quelque part
c'est
l'inspiration
très intéressante.
L'informatique concurrence les muses.
Est-ce c'est pour ça que je parlais de
ça te convient par rapport à ton écriture poétique ?
Oui et non, parce que c'est plus un jeu quand même. C'est plus un miroir de ce qui pourrait être, plus qu'un miroir de ce qui est. C'est, quand je parle de contamination, je parle de ça. La possibilité de contamination qui n'est pas forcément réelle, ni dans tous les textes. C'est aussi juste quelques passages. Que se passerait-il si on avait contamination et puis ensuite on revient, on redevient humain avec un langage humain et poétique et on dit quelque chose sur le monde, on dit quelque chose sur la vie. Disons qu'on peut parler de plein de choses, de différentes choses, de multiples sujets, thèmes, dans un seul poème. Et là, c'est là que je fais appel au lecteur, chacun va soit choisir ou superposer les sens. Ça, c'est le choix personnel de chacun, et je n'en voudrais à personne de n'en voir aucun, ou 10, ou 100, ou qu'il referme le livre sur un autre texte.
Isabelle, avant de marquer une nouvelle pause musicale, le moment est venu pour nous de laisser place au coup de cœur de la semaine. Voici venir notre libraire partenaire de la librairie L'Autre Monde à Avallon. C'est l'occasion de faire aussi le point avec Evelyne Levallois, de faire le point avec elle sur les meilleures ventes à Avallon. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Le coup de cœur de la semaine pour la librairie sera Flétrissure de Nelly Neuhaus aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Il s'agit bien d'un poche policier. Je vous propose ce soir un polar classique, pour ceux qui aiment Camilla Läckberg par exemple, car c'est surtout un polar d'ambiance avec une intrigue forte et bien ficelée. Comme chez Läckberg, le personnage principal est une femme, elle s'appelle Pia Kirchhoff. Elle est détective de la police allemande, car contrairement à Läckberg, on est en Allemagne et non en Suède. Comme souvent dans les romans policiers, tout commence avec un meurtre. David Goldstein, un vieillard sans histoire, a été retrouvé exécuté, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, exécuté. Notre enquêtrice découvre très vite que ce vieil homme appartient à la très bonne société francfortoise et que l'enquête n'en sera que plus compliquée parce que, politique oblige, il va falloir ménager des susceptibilités. En plus, David Goldstein était citoyen américain, allemand et israélien, ça n'arrange jamais rien dans ces cas-là. Ça se corse encore un peu plus quand, sur la table d'autopsie, on découvre que David Goldstein avait sur la hanche le tatouage des gardes du corps d'Hitler. C'est-à-dire qu'il appartenait à une société d'élite nazie, ces nazis les plus convaincus, encore plus forts que les SS. Comment peut-on être juif et nazi ? C'est la question qui va faire débat tout au long du roman. Ketris prenait au début pour un crime antisémite serait peut-être au contraire un crime de vengeance suite à la Seconde Guerre mondiale. On va donc passer sur un tout autre plan. On découvre dans ce roman, d'abord, comment l'arrivée des Russes sur le front de l'Est en 44-45, va permettre à un certain nombre de nazis convaincus de cacher leur passé. En effet, certaines archives vont rester enfermées derrière le rideau de fer pendant très très longtemps, et certaines ne sont même pas encore ouvertes. Aujourd'hui en Pologne, on ouvre enfin certaines archives et on découvre des choses assez peu glorieuses. On découvre aussi dans ce roman comment les jeunes générations allemandes gèrent l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien l'histoire nationale que l'histoire familiale, parce qu'évidemment, le nazisme a touché toutes les familles, au plus profond d'eux-mêmes. Un roman policier qui est très très réussi, et pour une fois un point de vue allemand sur ces questions qu'on a déjà largement traitées en littérature, mais c'est souvent des points de vue qui ne sont pas allemands. Donc là, c'est tout l'intérêt. Donc Flétrissure de Nelly Neuhaus, qui est notre coup de cœur de la semaine aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Je signale toutefois que c'est le premier volume des enquêtes de Pia Kirchhoff. Donc il y en a un deuxième qui s'appelle Blanche-Neige doit mourir.
Parfait, merci Evelyne pour ce nouveau coup de cœur. Et puis alors, comme chaque semaine, on aime bien faire le point avec la libraire. On rentre un petit peu dans la curiosité commerciale. Qu'est-ce qui s'est vendu en grande quantité ? Quelle est le classement des meilleures ventes?
Alors, cette semaine, les lecteurs se sont passionnés pour les ouvrages de Stéphane Hessel.
Alors, il est vrai que la disparition de l'homme, forcément, a, disons, relancé un peu l'intérêt autour du combat des idées de ce grand humaniste.
Tout à fait. Hein, et donc la première vente, c'est évidemment Indignez-vous. Mais celui qu'on vend vraiment très très bien, juste derrière, c'est Danse avec le siècle, qui sont les mémoires, hein, puisque ce qui intéresse surtout les gens, c'est l'histoire incroyable de cet homme dont les parents, on raconte leur histoire dans Jules et Jim, par exemple. Hein, donc on commence à Jules et Jim, et puis on finit ambassadeur, et en passant par la résistance, ben, vraiment un parcours d'homme incroyable.
Et le camp de concentration également.
Également, voilà. Donc, Indignez-vous, Danse avec le siècle, et aussi les poésies. C'est le printemps des poètes, donc je tenais à le signaler, hein, les poésies de Stéphane Hessel. Ensuite, on vend très bien Guillaume Musso, avec un roman qui s'appelle Demain. Nous vendons aussi très bien L'année du volcan de Jean-François Parot, notamment parce que la série télévisée a été tournée dans les châteaux de Tanlay et Ancy-le-Franc. Donc... Ensuite, les belles ventes sont Belle et Bête de Marcella Yacoub, pour les raisons qu'on sait, hein, la presse s'en est emparée, et le plaisir tout particulier que j'ai à vous dire que une de nos meilleures ventes est L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrew Skivirak aux éditions Attila. C'était notre premier coup de cœur avec Yannick.
C'est vrai. Tu en avais parlé lorsque je vous avais reçu avec Carole dans l'émission qui a été diffusée, je crois, le 23 janvier dernier, si ma mémoire est bonne. Donc ne pas oublier la venue de l'auteur à la librairie oblique rue Joubert à Auxerre, chez ton confrère qui lui aussi appartient au réseau des libraires indépendants initiales.
Tout à fait.
Rappelle-nous le titre de ce roman, donc c'est L'homme qui parlait...
Qui savait la langue des serpents d'Andrew Skivirak chez Attila, qui sera le 13 avril à 17h chez Oblique.
Le message est passé. Merci Evelyne pour toutes ces informations. On te retrouve déjà sur la page Facebook de l'émission Wagon Livre Yannick Petit dès demain, avec la couverture du livre que tu as mis en valeur ce soir, et puis d'ici quelques jours en podcast sur le www.radion.fr. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Isabelle Monin à l'occasion du 15e printemps des poètes. Nous essayons de délimiter ce qu'implique le langage poétique. C'est ambitieux et audacieux. Isabelle Monin est notre invitée. Elle est poète, auteur d'un recueil qui a pour titre « Trois fois rien des astres » et disponible aux éditions Vermifuge. Elle est également professeure de lettres. On se retrouve dans quelques minutes après la pause musicale, toujours sur Radio.
Soufflerie où se terre le mystère inquiet des ondes et de la symétrie des paramètres au cœur violet. Je vois des voiles d'aluminium au fond de mon regard distrait, des odeurs de mercure au chrome sur le registre de mes plaies. Glacé sur mon sourire, laisse une traînée de buée. Quand je regarde l'avenir, au fond de mes yeux nécrosés, le vide a des lueurs d'espoir qui laisse une ombre inachevée sur les pages moisies de l'histoire où je traîne ma frise argentée. Regarde ses faces, je suis l'étranger dans la glace, ma mémoire s'efface. Adoucit les contours des ratures sur mes triolets, la valse des nuits et des jours se perd dans un murmure discret, les matins bleus de ma jeunesse s'irisent en flots multicolores sur les molécules en détresse dans le gris des laboratoires. S'efface, je suis l'étranger dans la glace, ma mémoire s'efface.
Radion, au cœur de la Bourgogne, 90.5.
L'étranger dans la glace, un titre d'Hubert Félix Thieffen, proposé et très largement suggéré par notre invitée Isabelle Monin, qui est poète. Nous parlons avec elle de son dernier recueil qui a pour titre « Trois fois rien des astres », disponible aux éditions Vernifuge, et également enseignante de lettres. Je voudrais juste, avant de reprendre la conversation avec notre invitée, vous informez que mercredi prochain, 27 mars, dans Wagon Livre à 21h, nous recevrons Thierry Bourcy, scénariste pour la télévision et le cinéma. Il est auteur de romans policiers historiques et notamment de L'arme secrète de Louis Renault, disponible en folio policier. L'histoire de ce roman, Isabelle, te passionnera également. Tu pourras en parler à tes collégiens. En pleine guerre, en 1915, quelqu'un a dérobé dans le coffre-fort de l'industriel Louis Renault les plans du prototype du char FT-17 qui devrait normalement apporter la victoire à la France. Début, en tout cas, de l'enquête, mercredi prochain, à partir de 21h, à bord de Wagon Livre. Avant Hubert Félix Thieffen et avant le coup de cœur de notre libraire Isabelle, nous parlions justement de cette poésie que tu composes, que tu illustres en utilisant des ressources nouvelles. Est-ce que justement le fait de d'écrire une poésie qui demande au lecteur une complicité qui lui demande aussi d'accepter l'exploitation des ressources informatiques, est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour la professeure de lettres de dire, certes, on peut jouer avec la langue. La preuve, l'éditeur parle même de faire, de dire péter les coutures du pantalon de la langue, mais est-ce que justement ce n'est pas une poésie qui s'adresse avant tout à des personnes qui maîtrisent déjà bien la langue et une poésie académique, justement, pour pouvoir en comprendre quelque part les clins d'œil et les fantaisies.
Oui, je pense que même si dans mon ambition, c'est une poésie qui s'adresse à tout le monde, à chacun, j'avoue que, de toute façon, à partir du moment où moi, j'ai une culture universitaire, nécessairement, ma poésie va être influencée par celle-ci. C'est-à-dire qu'au niveau du vocabulaire ou même au niveau des poètes antérieurs que j'ai pu lire, que j'ai pu étudier, si je reprends certaines choses, si je fais des clins d'œil à ceci ou cela, si je mime ceci ou cela, si je m'oppose à telle ou telle chose, je suis nécessairement obligée de les avoir étudiés ou lus auparavant. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire de comprendre exactement toute mon ambition pour lire ces textes ? Je ne pense pas. Je pense que chacun peut les prendre avec sa sensibilité, avec ses a priori ou non,
avec sa liberté, aussi.
Avec sa culture,
propre culture,
avec sa propre culture, sans être forcément, sans se sentir méprisé par ces textes-là.
Alors, il est vrai que ta poésie, tu l'as dit, mélange un peu de l'anglais, mélange des présentations, des termes un peu à l'image d'adresse Internet, sans espace, où tout est... Les espaces sont rabotés, les mots sont collés. Enfin, c'était d'ailleurs un peu le cas dans l'Antiquité latine, hein, où les Romains écrivaient les mots les uns derrière les autres, sans espace. Je crois que la ponctuation est une invention beaucoup plus tardive. La preuve, c'est que la ponctuation disparaît. Tu ne supprimes pas complètement les majuscules en début de vers ou en début de strophe. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exubérance, de l'exagération. Et j'allais dire surtout, je me demande si cette écriture ultra moderne n'est pas une écriture aussi transgressive. Il y a une volonté de transgression. Victor Hugo mettait un bonnet rouge au dictionnaire. Isabelle Monin met des smileys, de l'anglais, des arrobases dans ses poèmes. C'est aussi une façon de révolution poétique.
Oui, certainement. C'est une forme de révolution poétique par la poésie, effectivement, qui doit prendre en compte l'évolution du langage. Ce n'est pas forcément une volonté de transgression. C'est plutôt la prise en considération de l'évolution de la langue, la prise en considération du langage d'aujourd'hui, des jeunes, tel qu'on l'entend, qu'on le voit, qu'on le lit, qui nous heurte, en fait. Et donc, on a envie d'en parler. Et la transgression, elle n'est pas forcément par rapport à la poésie, mais plutôt par rapport à ce qu'on voit et ce qui nous heurte, ce dont on a envie de parler.
Mais ne crains-tu pas de te faire des ennemis? C'est-à-dire qu'on va dire tout de même, elle est enseignante de lettres, elle utilise des langages, des symboles informatiques, des nouvelles technologies dans sa poésie, alors qu'elle devrait être la garante du beau langage. Est-ce que tu ne prends pas le risque aussi, quelque part, d'abaisser la langue?
Ah, c'est une très bonne question.
Ça, c'est une vraie question. Elle me paraît incontournable. C'est-à-dire qu'on pourrait t'accuser de dire « Ah oui, mais ça, ce n'est pas de la poésie. »
Ah oui, de toute façon, pour beaucoup de poètes contemporains, la question est toujours là. C'est une question récurrente, puisque pour certains, la poésie, c'est encore un sonnet en alexandrin.
C'est ça, et ça repose au problème de la définition. Qu'est-ce qui est poésie,
voilà,
qu'est-ce qui ne l'est pas?
La poésie est toujours obligée de se justifier. Oui. Bon, ça ne me pose pas de problème, bien sûr. On doit se justifier. Alors, c'est pas parce que dans certains textes, j'ai un smiley ou deux, ou que dans un autre texte, je vais avoir un arrobase ou une absence de ponctuation, que j'abaisse la langue, étant donné que mon vocabulaire... je ne pense pas qu'il soit trop basique, justement. On peut même me reprocher l'hermétisme par rapport au vocabulaire utilisé.
Je ne sais pas ce que sont des phobophages, par exemple.
Ça, c'est un néologisme.
Oui.
Ah, c'est ceux qui mangent la phobie.
D'accord. Voilà.
Donc, ça n'existe pas, c'est un néologisme, mais bon, il faut
connaître un petit peu. Il faut avoir les racines,
voilà,
les racines
donc,
grecques.
Est-ce que utiliser des néologismes à partir du grec, est-ce abaisser la langue? C'est une grande question aussi, mais bon, on peut se la poser.
Et en plus,
ce n'est pas une poésie écrite en langage SMS non plus. Il n'y en a pas.
Certes, mais il y a de l'anglais. Alors on va dire,
d'anglais.
A-t-elle besoin d'introduire de l'anglais? Pourquoi saupoudre-t-elle ses poèmes de mots anglais, de franglais, alors qu'on est dans une période où on a le sentiment que notre langue, et tu en sais quelque chose bien évidemment, est attaquée de toutes parts par la publicité, par aussi une sorte de simplification orthographique? On voit beaucoup d'aberrations. Alors ne parlons pas d'un niveau d'orthographe qui baisse lamentablement. Alors,
exactement,
l'utilisation de l'anglais te permet quand même des jeux de mots qui sont savoureux. Je vois par exemple, tu parles des fous de Bowl. Bowl, hein, Bowl, B-A-2-L, des fous de Bowl. Et il y a aussi des jeux de mots. Alors, la paronomase, alors les paronymes, ce sont des mots qui présentent une proximité phonétique. Je donne un exemple puisé dans un de tes poèmes qui a pour titre « Moi, si c'était vrai ». Tu parles de « carte sur table » et un peu plus loin de « carte sortable ». « Carte sur table », « carte sortable ». Ça me plaît beaucoup. Ça, c'est un vrai jeu sur les mots. Mais l'anglais, effectivement, dans la poésie, est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'ôter un peu de sa puissance poétique à notre belle langue maternelle?
Alors, il y a plusieurs réponses par rapport à l'utilisation de l'anglais. Dans un premier temps, quand je parlais tout à l'heure d'évolution du langage, on est influencé et puis presque contaminé. Donc la poésie n'est pas l'Académie française qui se porte garant du bon usage. La poésie est libre, elle doit faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas garante du bon usage. C'est pas l'Académie française, la poésie. Si on se trompe là-dessus, je pense qu'on fait une erreur sur la vocation, les ambitions de la poésie et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui. Donc sur l'utilisation de l'anglais, c'est une façon de mettre en miroir cette influence pour ceux qui n'en auraient pas conscience peut-être. Je pense que dans le journalisme, on pourrait plus se poser la question que dans la poésie, par exemple. Et d'un autre côté, l'anglais permet des jeux de mots intéressants pour l'oral, même pour la lecture, à voix haute pour soi, peu importe, mais pour l'oral aussi. Ça permet ces paronomases-là en français ou même en anglais. On peut comprendre différentes choses avec un jeu de mots et ça me permet de multiplier les sens potentiels.
Nous poursuivons notre conversation avec Isabelle Monin, notre invitée, pour nous présenter sa conception de la poésie. Là, on est vraiment au cœur du sujet. On continuera à le faire en demandant à notre poète invité de lire quelques-uns de ses textes après la pause musicale qu'on va vous proposer. D'ailleurs, Isabelle nous propose une chanson d'amour, « L'homme à tue-tête » par le groupe « Debout sur le zinc ». A tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invitée Isabelle Monin, ce soir sur Radion.
L'homme à tue-tête, moi c'est la femme qui me nourrit. J'aime sa tête, j'adore ses seins et dans mon lit. Quand elle me regarde, me dit qu'elle m'aime aussi. Elle me remplit de réponses, moi qui ne sais dire que oui. Quelques centimètres plus tard, quand il projette être pompier vulcanologue dans une assiette, qui en rigole, qui le prend dans ses bras, le monde entier séduit, tout l'univers est là. Jamais je ne m'ennuie. Les préambules, je trouve ça chiant comme la pluie. La larme à l'œil, je parle fort et je ris pour oublier l'angoisse qui m'étreint chaque nuit. Et il court, il rampe, il s'insinue, il impressionne. De contorsion, d'émission quand on le sonne. Pas pour le temps de s'occuper d'autrui. Le partisan s'efface, un seul parti, c'est lui.
Cherche du sens, tu vois le temps qui avance à petit pas vers toi. Tu te retournes, tu te retourneras. Tu te retournes et tu.
L'homme à genoux relève la tête et puis maudit. L'argent prophète, nul n'est prophète en son pays. À mi-parcours, reprend ton souffle et sourit. Et tes dents ne sont plus blanches, tes cheveux sont gris. Quand se profile à l'horizon ton oraison, la dame au fil et au ciseau la sans passion. Depuis ton lit, tu te pâmes et tu pries. Tu te retournes en vain, pas d'autre issue. C'est cuit. Cherche du sens, oublie le temps qui avance à petits pas vers toi. Tu te retournes et tu t'en.
debout sur le zinc, un choix de notre invitée Isabelle Monin, qui est devant le micro de Wagon Livre, votre émission littéraire, à l'occasion du 15e printemps des poètes qui a retenu cette année le slogan, le thème de voix de poème. Et bien justement, voix de poème, Isabelle, tu vas nous donner lecture d'extraits de poèmes que l'on trouve dans ton dernier recueil qui a pour titre « Trois fois rien désastre » disponible aux éditions Vermifuge. Alors on peut commander ce recueil auprès du libraire, hein, Isabelle Monin, « Trois fois rien désastre » ou alors on pianote, là on utilise les nouvelles technologies et on se rend sur le site des éditions Vermifuge, www.vermifed.com. Lecture de poèmes par Isabelle Monin, notre invitée.
La nuit n'en a pas fini de mourir. Le lendemain est un songe. C'est une histoire épiée à ceux qui n'en finissent pas de nous raconter des histoires. C'est une histoire épiée pour ceux qui en ont assez de les subir, pour sots enfermés à tour de bras entre quatre planches, de salut, goodbye. Une toire sans début, pour éviter les écueils échafaudés de portraits et de quêtes du héros approximatif. Une histoire sans fin, à la manière d'un Sisyphe emmitouflé dans ta mémoire mimétisée à l'infini. Une histoire qui n'en finirait pas de commencer, finalement, s'il n'y avait pas quand même un truc à dire dans tout ça. Un truc qui finirait par commencer par le rapport de force entre un paquet de clopes vide et un mec plein. Un truc comme ça, facile à faire, facile à dire, facile à taire, facile à... Glaire une note dégueu pour notre paquet de clopes vide qui est obligé de faire avec. Avec son mec plein dans la poche qui est tabou, sous vide, tabou, qui n'en peut plus. Qui n'a pourtant plus qu'à attendre le jour pour espérer une autre histoire et que cesse cette mascarade, cette parodie de tout à l'égout. Attendre, espérer, tendresse, errer. Mais la nuit n'avait pas fini de mourir, apeurée par les couleurs du temps. La nuit, soumise aux lois de l'ivresse, ne peut-elle plus se résoudre aux douleurs, comme avant ? Le lendemain n'existe pas. Le lendemain est un songe, une chimère décomposée, un songe d'une lenteur élaguée, exagérée dans l'ivresse et le sommeil des terres. Le mec plein s'est endormi. À son côté, le paquet de clopes vide, qu'il serre dans son poing, comme pour ne pas partir tout seul jusqu'à un lendemain sans visage. Il ne rêve pas. Pour cela, il préfère attendre le jour, par crainte de révélations nécrophages, à rassasier de ses escarres de conduite, dangereusement assoupi dans son crâne béant sous la lune. Il espère encore.
Alors un autre poème, toujours récité, déclamé, avec cette voix extrêmement sensuelle dans cette nuit qui commence sur les ondes de Radion, donc des poèmes extraits de son dernier recueil, « Trois fois rien désastre », disponible aux éditions Vermifuge.
Apatride, c'est le deal, derrière son jukebox. Elle se tire et l'inspire. Quand elle fait la gueule, entre deux lèvres serrées un max, son jukebox était froid. Ne plus se cacher derrière, faire face. Les mots en l'air, dit-elle. Il l'entend se tordre sous ses promesses. Son jukebox était froid. Il obéit à sa voix d'ombre, bancale, comme hivernale, sans se soucier du sol qui manque, à chiffrer ou à perdre, ni de ses pas qui se dérobent dans l'axe. Il l'a sondée de toute son haleine, mais son jukebox restait froid. T'as pas idée du manque à vivre à l'ouest du jukebox. Apatride, c'est le deal. 50 peurs balafrent son exil quotidien. Il relance sans relâche sa traversée funiculaire, mais son jukebox restait froid. On zappe de chaîne en chaîne déliée, alliée autour, des maillons de chiffres à empiler. Poubelle de ces fosses sceptiques qui t'enfoncent un baillon délicatement roulé au fond des gorges chaudes. Dessine-moi un pays pour les apatrides. Tire pour eux d'un trait une langue pré-synchrone, post-natale. Et son jukebox, choisis ton disque et deviens claqueur de doigts derrière le jukebox.
C'était un extrait de Apatride de Celedil, un poème d'Isabelle Monin, extrait de son recueil Trois fois rien des astres, disponible aux éditions Vermifuge. L'émission touche bientôt à sa fin. On écoute Binolac et Printemps 2004 qui nous interprète Je ne dors pas. Isabelle, c'est un de tes choix, un petit coup de cœur.
Un petit coup de cœur, puisque Emmanuel Campo est un poète contemporain, vivant, local, qui écrit de la poésie, qui a commencé à Dijon, qui est à Lyon maintenant, et qui est en train de jouer en ce moment même à Dijon, au Bistrot de la Seine.
Voilà, alors c'est Binolac et Printemps 2004, Je ne dors pas. Eh bien, nous ne dormons pas. On se retrouve dans quelques minutes pour conclure avec notre invitée, Isabelle Monin.
Les murs, souvent comme un supplice sans voix, à l'air pour les intimes murmures d'être celle que j'ai aimée cent fois. Allongé, je m'abîme certains soirs au couloir, des années, des habits jusqu'au noir, mon boudoir pour y voir nettement que je mens, que j'ai peur, fait d'avoir fait sûrement une erreur. Et la fille qui depuis passe ses nuits loin d'ici, déshabille mes désirs de partir la rejoindre pour la peindre en regret, au regard de la jungle de mes doutes, de la date des trois ans qui m'étranglent et qui jonglent avec les yeux de celles qui m'appellent, m'ont appelé de leurs ongles dans mon dos de falaise, elles descendent en rappel, en rappelant mes mains. À l'aise de nouveau sans avoir tourné page de brouillon de nos mots d'amoureux envoyés par texto en décembre de l'année, des quatrains d'ascenseur, de la cage d'escalier embrassée à pas d'heure, désormais cette cage devenue mon bourreau. Questions qui rapetissent les murs, souvent comme un supplice sans voix, à l'air pour les intimes murmures d'être celle que j'ai aimée cent fois. Et ça me tue, ça me penche tous les jours dans la tête, bousculer souvenirs, des étreintes et casquettes à l'envers, attitude italique, je titube, je me tords de couleur, mélanger Rubik's Cube ruminant à la longue. Cette histoire de faux ongles, elle demeure dans mes songes, tous les coins, tous les angles se replient sur moi-même. Nénuphar de ma mare, j'en ai marre, je me marre, et des vertes et pas mûres, je suis dément, c'est pas clair, je me torche sans lumière, allongé, je m'abîme, au couloir des paupières, pas possible, pissotière, ton village, je suis beau. À ma place mes travers, pas possible, j'ai rêvé encore d'elle, au bordel, cette question qui la sert. Mes neurones, mes petits muscles, mes pas joueurs, mon disquaire, trop de scuds de déprime, underground, notre chanson, que j'écoute comme une flamme, histoire courte, cheveux longs. Questions qui rapetissent les murs, souvent comme un supplice sans voix, à l'air pour les intimes murmures, d'être celle que j'ai aimée cent fois. Je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas, non, je ne dors pas. Je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Et je me fous désormais de l'activité de ton organe. Je me fous désormais de l'activité de ton organe. Je me fous désormais de l'activité de ton organe. Je me fous désormais de l'activité de ton organe. Je ne dors pas. De ton organe, je me fous désormais de l'activité de ton organe, je me fous désormais de l'activité de ton organe, je me fous désormais de l'activité de ton organe, je ne dors pas, non, je ne dors pas, non, non, je ne dors pas, 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 je ne dors pas.
je ne dors pas, je ne dors pas.
C'était Je ne dors pas, Binolac et Printemps 2004 à l'instant sur Radion, un choix musical de notre invitée Isabelle Monin. Le moment est bientôt venu de nous séparer. Hein. Les voix de poèmes trouveront, j'espère, un écho dans la curiosité qu'aura éveillé notre échange. Isabelle, je crois que pour conclure, je t'invite à te prononcer sur ce qu'écrit ton éditeur, à savoir qu'une grande liberté d'écriture ne va pas sans une grande liberté de lecture.
Alors très rapidement, effectivement, on peut conclure sur cette idée qui est pour moi essentielle dans l'écriture de poésie, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on veut puisqu'on est libre, d'accord, mais on ne doit pas se figer derrière une seule idée et une seule façon de lire. Sinon, on ne publie pas, sinon on ne fait pas lire ses textes. Il faut nécessairement que les lecteurs trouvent leur voix dans ce poème. Le poème est émancipé de son poète. D'accord ? Ça, c'est très très important. C'est le lecteur qui doit incarner cette voix du poème ou ces voix du poème, mais ce n'est pas se prosterner devant le démiurge poète.
Merci Isabelle pour cette très belle conclusion. Je rappelle une fois de plus et pour la dernière fois le titre de ton dernier recueil de textes poétiques, Trois fois rien, désastre, disponible en librairie aux éditions Vermifuge. On peut carrément le commander sur le site de ton éditeur, hein, sur le www.vermifed.com. Et puisque nous sommes encore dans le printemps des poètes, je voudrais aussi mentionner la sortie du dernier numéro de la revue de poésie Décharge, dirigée par Jacques Morin, qu'on a déjà reçu dans Wagon Lit. Le dernier numéro de Décharge, le numéro 157 de mars 2013, est disponible. Merci Isabelle Monin d'avoir été l'invitée de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.